Le journal vous est présenté par Frédéric Barrère. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information dans l'actualité ce soir. Plutôt qu'un déconfinement, il s'agira d'un allègement progressif des contraintes. Emmanuel Macron prendra la parole mardi soir. Le confinement sera assoupli en 3 étapes à la fin du mois, avant et après Noël. Les bars et les restaurants continueront à connaître des restrictions. Certaines mesures sont déjà quasiment actées. Il y a encore des zones d'ombre. Simon Le Baron, dans un instant. Les États-Unis espèrent commencer à vacciner à la mi-décembre. L'épidémie de coronavirus continue de flamber aux États-Unis. Le cap des 12 millions de personnes contaminées a été franchi. Les vaccins au cœur du G20, présidé par l'Arabie Saoudite. Les dirigeants s'engagent à répondre aux besoins de financement pour un accès équitable à la vaccination. La planète au centre des attentions. Un délit d'écocide va être créé. Les atteintes à l'environnement seront punies par la loi. Le statut d'officier de police judiciaire sera donné aux agents de l'environnement. Patrick Saint-Léger du Syndicat national de l'environnement.
Actuellement, ce qu'on constate, c'est que les poursuites, soit elles s'étaient classées, soit il n'y avait pas de poursuites parce qu'il n'y avait pas les moyens et que quand il faut arbitrer entre des incendies de banlieue, des choses comme ça, etc., ou des délits environnementaux, et ben, c'est pas forcément les délits environnementaux qui étaient retenus.
Dans ce journal également, l'alarme de la Fédération hospitalière de France. Le nombre d'admissions à l'hôpital a chuté lors du premier confinement. 2 millions d'admissions en moins à l'hôpital. La page sport de ce journal, avec la victoire 22-15 de l'équipe de France de rugby en Écosse, à Murrayfield, lors de la Coupe d'automne des Nations. Un point sur le vent des globes et nous nous intéresserons au tennis et à l'avenir incertain de ce sport en raison de la pandémie de coronavirus. En fin d'édition, c'est mon actu, notre rendez-vous du dimanche avec Sandrine Houdin. Rencontre ce soir avec trois jeunes gens, Martin, Dounia et Charlotte, qui attendent mardi et la prise de parole du chef de l'État. Le virus gâche leur jeunesse. La météo pour demain, des nuages avec quelques gouttes de pluie au nord, du soleil au sud. Jean-Michel Golinski, à la fin de cette édition, à 19h30, les petits bateaux, Noël Bréham.
Bonjour, je m'appelle Mila, j'ai 5 ans et demi et je voudrais savoir pourquoi parfois on ment.
Réponse à 19h30, les petits bateaux.
France Inter.
Emmanuel Macron ne promettra sans doute pas cette fois le retour des jours heureux comme en avril dernier. Il n'est d'ailleurs pas question de déconfiner. Le chef de l'État, qui s'exprimera après-demain soir, mardi à 20h, annoncera un allègement progressif des contraintes, indique l'Élysée. Un allègement en 3 étapes autour du 1er décembre, avant Noël et puis début janvier. Emmanuel Macron veut apporter de la clarté, donner un cap. Certaines mesures sont déjà bien avancées, mais il y a encore des zones d'ombre, Simon Le Baron.
Et la première certitude, c'est que les indicateurs sanitaires continuent d'aller dans le bon sens. L'exécutif abordait ce week-end avec beaucoup de prudence. Les chiffres ne repartent pas à la hausse. Dans ce contexte, la reprise des commerces dits non essentiels et des cérémonies religieuses dès le week-end prochain, avec un protocole renforcé, semble quasi acté. Le ministère de l'Intérieur s'entretient d'ailleurs ce soir avec les représentants des cultes pour discuter des prochaines étapes. Les bars et les restaurants, en revanche, devront attendre. C'est la deuxième certitude. Le Premier ministre Jean Castex le confirme, pas de réouverture à espérer dans l'immédiat. Quant au théâtre, au cinéma, aux salles de sport, aux stations de ski, les discussions se poursuivent entre les professionnels et le gouvernement. Leur sort devrait être décidé mardi matin au Conseil de défense. Et puis pour la suite, que peut-on espérer pour Noël et pour l'année prochaine avec l'arrivée des vaccins? Le président veut fixer un horizon, dessiner les étapes suivantes, les prochains assouplissements, en somme, donner de l'espoir à des Français de plus en plus fatigués, mais à qui il ne peut pas encore parler de déconfinement. C'est d'ailleurs la troisième certitude. Les déplacements et les contacts personnels resteront strictement limités.
Simon Le Baron, les mesures de restriction et le confinement, même allégé, restent une source d'inquiétude et d'interrogation, notamment pour les petits commerçants qui attendent une date précise pour rouvrir. Les cinémas, les théâtres, les salles de sport ou encore les stations de ski, on en parlait à l'instant, ont multiplié ces derniers temps les alertes sur leurs difficultés et au même moment, les critiques montées dans l'opposition pour critiquer justement la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Jordan Bardella du Rassemblement National, invité à la mi-journée de questions politiques sur France Inter, parle d'une gestion au doigt mouillé.
On a le sentiment d'une gestion un peu au doigt mouillé. C'est la gestion au doigt mouillé, c'est-à-dire que le matin, vous avez un ministre qui vous explique que peut-être les commerces vont rouvrir le 27 novembre. Ensuite, vous avez le porte-parole du gouvernement, Monsieur Attal, qui nous dit qu'il n'est pas question de parler de déconfinement. Ensuite, carrément, Monsieur Castex nous dit, Premier ministre nous dit, finalement, il n'y a plus de date au 1er décembre. Donc pour l'instant, c'est sorti avec attestation. Et si vous voulez, cette infantilisation permanente des Français, elle n'est plus supportable. On nous parle d'un protocole sanitaire pour la réouverture des petits commerces à 8 mètres carrés par personne. Mais c'est du délire. Voilà. Je trouve ça délirant. Donc faisons preuve de souplesse, de bon sens. Il faut rouvrir les petits commerces. Ils sont déjà habitués à respecter un protocole sanitaire qui est strict. Et je crois pas qu'en allant acheter une paire de chaussures, vous participiez à la diffusion de l'épidémie. Pardon.
Jordan Bardella à question politique et alerte de la Fédération hospitalière de France sur un désastre invisible à l'hôpital. Les hospitalisations de patients non-Covid durant la première vague de l'épidémie au printemps dernier ont chuté de manière très sensible. Entre mars et juin, 2 millions d'admissions à l'hôpital ont été annulées, reportées ou repoussées. Une étude qui chiffre pour la première fois le nombre des opérations d'examens annulées en raison du manque de suivi des soins pour les patients non-Covid. Frédéric Valtoux, président de la Fédération hospitalière de France.
C'est énorme, c'est d'une dimension jamais vue. Inévitablement pour certains patients, c'est des pertes de chance. L'activité est telle et elle a été telle cet été qu'on ne peut pas rattraper en quelques jours, en quelques semaines ou même sur 2-3 mois. Lorsqu'on fera le bilan, et on commence déjà à le faire, de cette épidémie de Covid, il faudra bien sûr regarder ceux qui ont été victimes du virus, mais il faudra aussi regarder tous ceux qui ont été, les oubliés, ou en tout cas les victimes collatérales de cette épidémie, liées à la nécessité de tourner les services hospitaliers très principalement vers la prise en charge des patients Covid au détriment d'autres pathologies. Ce qui doit nous interroger pour l'avenir et sur l'organisation des soins d'avenir dans notre pays.
Frédéric Valtoux, qui était avec Bernard Thomasson. Et puis, l'épidémie de coronavirus ralentit en France. La France a enregistré aujourd'hui dimanche 13 157 cas supplémentaires contre 17 881 hier, 215 décès contre 276 la veille. Des cas et des décès liés au coronavirus selon Santé publique France. Et bien sûr, et ce chiffre est en recul pour le 6e jour consécutif. Et puis, à l'instar des autres pays européens, la France vient à son tour de détecter la présence de Covid-19 dans l'un de ses 4 élevages de visons en Eure-et-Loire. Les 1000 bêtes à fourrure ont été abattues. À l'étranger, la campagne de vaccination contre le coronavirus pourrait démarrer dans 3 semaines aux États-Unis. Les premières vaccinations devraient intervenir le 1er décembre, selon le docteur Moncef Slaoui, qui a été nommé par Donald Trump pour coordonner le développement d'un vaccin contre le Covid. Les États-Unis, où la barre des contaminations de coronavirus a franchi ce week-end la barre des 12 millions de cas recensés. Sébastien Paour.
Le docteur Moncef Slaoui a fait le tour des plateaux télé ce matin et le conseiller scientifique en chef de la Maison-Blanche pour tout ce qui touche au vaccin est très optimiste. Pfizer et BioNTech ont demandé une autorisation de leur vaccin vendredi à l'Agence américaine du médicament en urgence. L'agence se réunira le 10 décembre pour rendre son avis et le docteur Slaoui table sur un feu vert de l'équipe scientifique, ce qui permettra de transporter les doses dès le lendemain ou le surlendemain vers les sites de vaccination et de commencer la campagne le 11 ou le 12 décembre selon lui. Délai très rapide donc pour ce vaccin qui promet un taux d'efficacité de 95% et résultat positif à la clé, toujours d'après le médecin. La Maison-Blanche prévoit de vacciner 20 millions d'Américains en décembre, jusqu'à 30 millions par mois ensuite, à condition que la fabrication suive. Ce qui fait dire au monsieur vaccin de Trump que les États-Unis pourraient atteindre l'immunité collective en mai, autour de 70% de la population immunisée. Et pour convaincre les plus réfractaires, il se dit prêt à tendre le bras pour les 2 injections dans les premiers, avec toute sa famille. New York, Sébastien Paour, France Inter.
Le G20, sous la présidence de l'Arabie Saoudite, a pris fin ce soir à un sommet peu commun par visioconférence et dans leur déclaration finale lors de ce sommet, les dirigeants du G20 ont promis de ne ménager aucun effort pour garantir un accès équitable au vaccin contre le coronavirus. On retrouve à Beyrouth notre correspondant Aurélien Colli. Bonsoir Aurélien.
Bonsoir.
La déclaration est consensuelle mais pauvre en annonces concrètes.
Oui, c'est vrai, mais on s'y attendait un peu avec ce format inédit, sans rencontre physique, sans cérémonie, sans présence médiatique, chacun chez soi, par visioconférence. C'est pas vraiment le climat idéal pour une diplomatie collective qui se dépasse. Et puis on s'y attendait aussi à cause de la situation aux États-Unis. En 2008, au G20 qui avait suivi la crise financière, la transition entre Bush et Obama était cordiale et le G20 avait répondu à la situation. Là, on est face à une pandémie mondiale, mais dans une transition chaotique avec un Donald Trump qui n'a évidemment pas impliqué son successeur dans ce sommet et qui est apparu deux fois pour parler de son bilan et de son retrait de l'accord de Paris sur le climat. Dans ce contexte, on a le sentiment que ce G20, à défaut de mesures concrètes, a au moins voulu entériner la fin de ce président américain qui a érodé les institutions internationales. La déclaration finale du sommet insiste sur la coopération mondiale, sur le multilatéralisme. Elle est offensive en matière de changement climatique, de commerce international ou sur le rôle de l'Organisation mondiale de la santé, aux antipodes donc de Donald Trump. Et puis pour le Covid, vous le disiez, le G20 reconnaît que la vaccination est un bien public mondial. Il s'engage à financer une distribution équitable des vaccins, des traitements et des tests pour que les pays les plus pauvres ne soient pas lésés. Le problème, c'est qu'il ne dit pas comment et qui va payer.
Aurélien Colli, en direct de Beyrouth, merci. À l'étranger encore, confusion au Burkina Faso lors des élections présidentielles et législatives. Le scrutin se déroule dans un climat politique et sécuritaire très tendu. Plusieurs bureaux de vote ont dû fermer aujourd'hui à cause de menaces. Des individus armés auraient interdit à la population d'aller voter. Reportage à Ouagadougou, Nathanaël Charbonnier.
Roch Kabore, le président sortant, a été un des premiers ce matin à voter. Et qui dit président dit bien sûr cohue, mais aussi déclaration à la sortie du bureau de vote. Et le président d'expliquer qu'il est venu voter, mais qu'il est là aussi pour inviter les Burkinabés à en faire de même, pour élire leur président pour les 5 ans à venir. Pas de polémique sur les soupçons de fraude évoqués par certains, car selon lui, ce n'était ni le lieu, ni le moment. Une prudence dont n'a pas fait preuve son principal adversaire, qui a demandé aux électeurs d'être présents lors du dépouillement pour vérifier la bonne tenue du scrutin, Zéphirin Diabré.
Je demande à tout un chacun de pouvoir aller assister au dépouillement dans les bureaux de vote. L'accès au dépouillement est libre et gratuit et autorisé.
Et ce droit a une saveur particulière pour cet électeur qui, malgré les critiques, ne boude pas son plaisir de pouvoir enfin s'exprimer librement.
Depuis 2014, nous avons vu que l'ancrage démocratique au Burkina avance toujours. On dit ce qu'on pense déjà. Sous le régime ancien, on le disait, mais sous une autre forme. Mais là, c'est encore plus libre.
Une liberté d'expression dont tous les Burkinabés n'auront malheureusement pu profiter à cause du djihadisme qui a privé de vote près de 20% du territoire. Ouagadougou, Eric Audra, Nathanaël Charbonnier, France Inter.
La planète au centre des attentions et des préoccupations du gouvernement après la Convention citoyenne sur le climat. Un délit d'écocide va donc être créé. Les atteintes les plus graves à l'environnement seront désormais punies par la loi. Avec ce délit d'écocide, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, et Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, veulent mettre fin au banditisme environnemental. Et dans le cadre de ce délit d'écocide, les agents d'environnement auront des pouvoirs renforcés. Patrick Saint-Léger, secrétaire général du SNE-FSU, le syndicat national de l'environnement, avec Béatrice Duguay.
Ces délits, ça marche bien vis-à-vis des pollutions, mais il faut aussi que ce soit le cas pour tout ce qui est atteinte à la biodiversité ou au milieu naturel. Par exemple, c'est quelqu'un qui détruit une haie ou sur du trafic d'espèces ou par rapport à tout ce qui est préservation de la biodiversité, il faut que ça couvre également. Et c'est une attention qu'il faudra avoir. Après, j'ai quand même deux bémols. C'est que, un, les inspecteurs de l'environnement, aujourd'hui, ce qu'on constate à l'OFB comme dans les parcs nationaux, c'est qu'on subit des réductions d'effectifs, des réductions de moyens depuis de nombreuses années. Si vous prenez le projet de loi de finances de 2021, c'est 20 postes en moins à l'OFB qui sont annoncés. Et pour le coup, renforcer les missions de police sans renforcer les effectifs qui vont avec, ils ne vont pas s'en sortir, ou ça veut dire que potentiellement on va leur demander d'abandonner certaines missions techniques. Et à un moment donné, si on n'a pas les moyens de faire, les meilleures intentions resteront lettre morte.
Patrick Saint-Léger du Syndicat National de l'Environnement, et vous trouverez sur franceinter.fr les réponses aux questions que vous vous posez peut-être sur ce délit d'écocide. Que veut dire concrètement ce délit? Les réponses sur franceinter.fr. (rire) 19h14 sur France Inter, la page port de cette édition. Bonsoir Guillaume Batin.
Bonsoir Frédéric.
Avec d'abord du rugby et la Coupe d'automne des Nations, et la jeune équipe de France continue sa croissance. Victoire cet après-midi face à l'Écosse.
Évidemment, une occasion perdue d'avoir quand même la chair de poule au son de Flower of Scotland, l'un des plus beaux hymnes du monde. Murrayfield complètement vide en raison des mesures sanitaires. Mais les Bleus ont largement compensé ces quelques secondes de frisson en battant l'Écosse 22 à 15. La seule équipe à avoir fait tomber la France cette année, c'était dans le tournoi des Six Nations en mars dernier. Une belle revanche pour Charles Olivon, le capitaine du 15 de France.
Ouais, voilà, c'est juste la victoire qui comptait. Elle est acquise, je pense que ça fait beaucoup de bien à tout le monde, parce que c'était dur. On avait à cœur de faire un bon match ici, ça faisait deux fois d'affilée qu'on perdait et voilà, je crois que c'est chose de faite. Donc on va pouvoir bien profiter ce soir parce que parce que ça fait 5 semaines maintenant qu'on est ensemble, tout le monde bosse super bien et c'est bien de finir par une victoire.
Charles Olivon, le capitaine de l'équipe de France de rugby, celui qui a été désigné homme du match, c'est le français Virimi Vakatawa, le marqueur du seul essai. Fanny Le Chevestrier, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi la rencontre ici dans les studios et non pas dans l'ambiance un peu feutrée de Murrayfield parce que les journalistes n'étaient pas autorisés cette fois à faire le déplacement. Ce premier vrai match des Bleus après la victoire sur tapis vert face aux Fidji, une équipe décimée par les cas de Covid, quel est l'intérêt d'organiser maintenant un nouveau tournoi 3 semaines après les Six Nations ?
Eh bien, pour des intérêts financiers, hein, tout simplement, en premier lieu, le nerf de la guerre. Hein. Il faut se rappeler que cet été, contrairement aux autres années, il n'y a pas pu avoir de matchs internationaux, tous annulés à cause de la pandémie. Cet automne, donc, eh bien, le comité des Six Nations, les organisateurs de cette Coupe d'automne des Nations, ont décidé d'instaurer une nouvelle compétition pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. Alors, c'est un peu raté, puisqu'il y a des huis clos à chaque match, mais les fédérations touchent tout de même les droits télé de la compétition. Et puis, si on est un petit peu chauvin, Guillaume, on se dira que eh bien, cette Coupe d'automne des Nations nous a donc permis d'aller affronter l'Écosse, ce qui n'était pas prévu avant le tournoi des Six Nations 2022. Donc, c'est un match de gagné. Cela permet aux équipes, aux sélections nationales, tout simplement, d'évoluer, de jouer après 8 mois d'interruption, vous l'avez dit. Donc, c'est important. Et les Français ont réussi donc à vaincre la malédiction écossaise en s'imposant pour la première fois à Murrayfield depuis 6 ans.
Merci Fanny Le Chevestrier. Le prochain match des Bleus dans cette Coupe d'automne des Nations, ce sera samedi prochain face à l'Italie au Stade de France. Un petit mot des féminines qui jouaient elles aussi. Défaite, nouvelle défaite face à l'Angleterre une deuxième fois en une semaine. 25 à 23 dans les dernières minutes de la rencontre.
Le Vendée Globe, Guillaume Batin, avec encore un favori en difficulté.
Ouais, cette fois, c'est le Britannique Alex Thompson. Il avait fait la course en tête longtemps, jusqu'à vendredi, mais il doit faire face, lui aussi, à une avarie sur son bateau. Officiellement, une avarie structurelle à la proue du navire. Il s'est réfugié dans une zone plus tranquille pour réparer, avec moins de vent, moins de clapots, moins de houle. Mais il va perdre gros, Jérôme Valle.
C'est lors d'une inspection de routine de son bateau avant d'affronter les mers du Sud que le Gallois a découvert l'anomalie. L'un des renforts avant de son monocoque Hugo Boss tout noir s'est sans doute décollé sans connaître l'origine de l'incident. Mais sans cette vigilance, ça aurait pu être catastrophique pour la tenue du bateau dans une forte houle. Alex Thompson a dû se dérouter vers une zone plus calme pour attaquer ce chantier. Poncé, coller du carbone, stratifier, son équipe technique en liaison permanente avec lui a assuré ce midi qu'il avait tout à bord pour remettre en état. Nous sommes confiants dans sa capacité à mener à bien la réparation, a estimé l'un des membres de son écurie. Reste à savoir combien de temps ça va lui prendre. Il a déjà perdu beaucoup de terrain sur les deux bateaux de tête, Thomas Ruyan, Charlie Dalin, et les conditions des prochains jours pour rallier le cap de Bonne-Espérance à la pointe sud de l'Afrique ne sont pas optimales avec un anticyclone de Sainte-Hélène imposant sur la route des solitaires. Troisième il y a 8 ans, deuxième il y a 4 ans, Alex Thompson vise cette fois la victoire. Elle est peut-être en train de lui échapper.
Et au dernier classement, celui de 18h ce soir, Alex Thompson est troisième derrière Thomas Ruyan et Charlie Dalin. Un mot de football avec la victoire à l'instant de Lyon sur la pelouse d'Angers. L'OL monte sur le podium de la Ligue 1. Puis fin de saison décevante en MotoGP pour le niçois Fabio Quartararo. Malgré 3 victoires en Grand Prix, il termine 14e de la dernière course de la saison au Portugal et à la 8e place du classement général. 13e place pour l'autre français, Joan Zarco, l'espagnol Joan Mir est champion du monde. Un français disputé l'une des 2 finales des Masters de tennis à Londres cet après-midi. Édouard Roger Vasselin, 36 ans, en double associé à l'Autrichien Jürgen Meltzer. Il a perdu 2-7-1 face au Croate Nikola Mektic et au Néerlandais Wesley Koulhoff en simple. Dominic Thiem affronte depuis quelques instants le Russe Daniil Medvedev depuis un gros quart d'heure maintenant.
Guillaume Batin, on va s'intéresser maintenant au tennis, sans doute le sport dont l'avenir est le plus incertain durant cette période de restrictions sanitaires. La pandémie a sérieusement et considérablement perturbé l'organisation de la saison 2020. 75 des 136 tournois programmés, hommes et femmes confondus, ont été supprimés du calendrier cette année. Et le plus grand flou entoure les compétitions pour l'année prochaine. L'avenir incertain du tennis pour la saison 21, c'est le long format de ce soir, Fabrice Abgral.
Soit plus de 50% des tournois supprimés, la saison de tennis 2020 a été sérieusement impactée par la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. La prochaine risque de l'être tout autant, du moins dans la première partie. Jean-François Cojol, le directeur de l'Open 13 de Marseille, prévoit un premier semestre allégé en tournoi.
Au moins jusqu'à la saison de terre battue, à peu près sous le même format que la fin de saison 2020. Donc, c'est-à-dire soit sur du huis clos, soit sur des jauges réduites. Il n'y a pas d'inquiétude particulière.
Mais parallèlement, Jean-François Cojol reconnaît aussi que la crise sanitaire a révélé des carences dans le fonctionnement du circuit professionnel. Il est évident, voire capital, que les organisateurs vont devoir s'adapter et faire des efforts financiers pour installer leur tournoi dans le calendrier, quitte à perdre de l'argent.
Il y a beaucoup de promoteurs qui ont perdu de l'argent, mais qui ont tenu absolument à organiser, à maintenir le fil conducteur du circuit sur la fin de saison, et c'est ce qui va se passer aussi sur le début de saison. On est tous prêts à prendre le risque de perdre de l'argent, mais pour que le circuit continue.
Et de leur côté, les joueurs vont devoir aussi faire des efforts, accepter l'idée de gagner moins d'argent. Les organisateurs vont réduire le prize money, l'argent gagné par les joueurs en fonction des tours passés en tournoi. Ils vont aussi supprimer les garanties, ces fameuses sommes parfois faramineuses qui assurent la présence de quelques-uns des meilleurs joueurs du monde dans certains tournois hors Grand Chelem et Masters 1000. Pierre Hugarbert est conscient que les joueurs n'ont pas d'autre choix que d'accepter cette baisse de revenus.
On n'est pas bête, on préfère totalement jouer un tournoi et retravailler d'une certaine manière, avoir une opportunité de travailler avec moins de prize money que de pas jouer du tout et au final peut-être de jamais rejouer parce que c'est plus possible de faire des tournois et d'avoir le même prize money.
Pour tous les observateurs du circuit professionnel, le tennis n'est pas en crise. La situation sanitaire, certes, fait vaciller l'édifice, mais pour Gérard Tsobagnan, le co-directeur du Masters 1000 de Madrid, il est inutile de revoir en profondeur les fondations du modèle économique.
Et je pense pas qu'il faut le revoir, le modèle, parce qu'il marchait bien avant qu'il y ait la crise. Maintenant, on a une crise sanitaire, on n'a pas une crise économique due au mauvais fonctionnement d'un sport ou d'une industrie.
Les dirigeants du tennis mondial ne prévoient pas un retour à la normale avant le mois de mai ou le mois de juin prochain, soit avant ou après Roland-Garros.
L'avenir incertain du tennis avec Fabrice Abgral. Guillaume Batin, encore un mot, on n'a pas parlé de judo qui a brillé au championnat d'Europe à Prague pour saluer l'arrivée d'un nouveau président.
Un nouveau souffle pour cette fédération en crise comme beaucoup d'autres. Accusations d'agression sexuelle, mauvaise gestion financière, une perte de plus de 100 000 licenciés ces 8 dernières années. Le nouveau patron élu aujourd'hui s'appelle Stéphane Nomis, il a 50 ans, c'est un homme d'affaires, un ancien international du judo. Il a battu par 60% des voix Jean-Luc Rouget, 71 ans, 4 mandats à son actif. Une nouvelle ère commence peut-être pour le judo français. Et puis la ville chinoise de Wuhan est en fait la mégapole de 11 millions d'habitants, épicentre du Covid-19, célèbre les joueurs de son équipe de football, vainqueur de son dernier match en première division et assuré d'y rester la saison prochaine. Les joueurs sont restés bloqués en Espagne 104 jours, confinés dès le début du mois de mars, lors d'un stage de préparation et en son absence. Elle a perdu une bonne partie de ses matchs sur tapis vert et donc la fête aujourd'hui a eu lieu à l'extérieur dans un stade où 2000 supporters sont venus après avoir été tous testés.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
La page agenda de cette édition avec les temps forts de l'actualité à suivre cette semaine. L'intervention d'Emmanuel Macron mardi prochain à 20h30. Le rendez-vous a été pris. Une semaine sans doute encore avec des crispations autour de la proposition de loi sur la sécurité globale à l'Assemblée nationale pour le vote solennel des députés. Autre point de blocage ou de contestation à prévoir pour le gouvernement dans un agenda judiciaire très chargé la semaine prochaine. Contestation autour de la reprise du procès des attentats de janvier 2015, avec la possibilité pour un accusé de comparaître en visioconférence. Colère des avocats, des magistrats, qui dénoncent une atteinte aux droits de la défense. Éric Dupond-Moretti défend la vision conférence aux assises.
Cette ordonnance, je vais le dire, n'est pas contraignante. Le président de la cour d'assises peut toujours, s'il le souhaite, renvoyer l'affaire.
D'accord.
On attend que la justice tourne. Il faut savoir ce qu'on veut. Les mêmes avocats qui disait « mais non, c'est pas possible qu'elle s'arrête », aujourd'hui ils me font un procès liberticide. Enfin, je suis le liberticide de service. Je le redis, c'est à la main du président de la cour d'assises qu'on aille voir le président, qu'on discute avec lui. C'est lui qui a la police de l'audience. Moi, j'ai simplement permis qu'un homme suive de la prison des débats qu'il aurait pu suivre du box, et ce sont des débats dans lesquels il est passif.
Et demain, dans le 5-7, Mathilde Muñoz reçoit Samia Maclouf, avocate des parties civiles au procès des attentats de janvier 2015. Dans cette semaine judiciaire chargée, début demain également du procès de Nicolas Sarkozy pour corruption dans l'affaire des écoutes. À suivre également cette semaine le rapport de la pauvreté en France, de l'Observatoire des inégalités et le lancement de la 36e campagne des Restos du Cœur, la journée internationale de l'ONU pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Journée programmée mercredi, mais avant cela, demain, le gouvernement, on vous en a parlé, présentera son plan contre les violences conjugales. Et puis à l'international, Joe Biden, le président élu américain, annoncera les noms de ses premiers membres de son futur gouvernement en début de semaine, sans doute ce mardi. On terminera la semaine avec le Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn et le marathon de New Delhi. Ça, c'est dimanche. Dans l'actualité, la semaine prochaine, il y a, et on en a parlé aussi, l'intervention mardi soir du chef de l'État. Une intervention très attendue, pas seulement par les petits commerçants ou les patrons de bars et de restaurants. Les jeunes attendent également la prise de parole d'Emmanuel Macron avec l'espoir de reprendre une vie la plus normale possible. Ce soir, micro ouvert à Martin, Dounia et Charlotte, dont ce sale virus est en train de gâcher leur jeunesse. Sandrine Houdin les a rencontrés dans une voiture, phare éteint, dans le noir, dans un bois.
Ils en ont marre, je vois tout ce cap blé. J'ai pas le temps, vous mettez au scap blanc.
Pardon de vous déranger.
Bonsoir.
Je peux juste vous demander ce que vous...
On est posé.
C'est les nouvelles soirées à la mode.
Bah la voiture, c'est devenu notre nouvelle terrasse.
Eh oui, c'est ça.
C'est vrai.
Ça veut dire quoi? On peut rien faire.
Oh, on n'a pas le choix, on n'a pas le droit de faire autre chose, donc...
Je peux vous demander de sortir.
Allez. Il y a les flics. Ah non, c'était les flics.
C'est bon.
J'ai l'impression d'être en temps de guerre. On se retrouve dans les mêmes circonstances que ce qu'on a étudié en histoire, quoi.
Moi, j'ai l'impression qu'on est dans un bunker sociable. Vous me suivez?
Pas du tout.
En fait, toute notre jeunesse, elle est enterrée au fond. Quand j'ai un enfant, il va me dire, tu faisais quoi à 20 ans? J'étais dans une voiture.
C'est ça?
C'est vrai, c'est ça. Ça se rattrapera pas, en fait. C'est ça, le truc.
C'est ça. Moi, j'ai l'impression que... Bah, c'est terminé, on retrouvera jamais ça, quoi.
Qu'est-ce qui est terminé?
Bah, les soirées, les boîtes, c'est un souvenir lointain, quoi, c'est comme un rêve, quoi.
Comme si on vous avait enlevé quoi? Une partie de notre jeunesse.
On n'aura pas 20 ans toute notre vie, c'est pas éternel, quoi. Et au bout d'un moment, il y en a marre, quoi. Moi, j'ai l'impression d'avoir moins de liberté qu'un enfant de 8 ans. Tout ce qu'on avait le droit de faire une fois majeur, bah, on peut pas le faire à l'heure actuelle. Donc au final, notre majorité, elle vaut que dalle. Parce que je me retrouve de nouveau à devoir demander à ma mère si je peux sortir, où est-ce que je suis, si je suis à 1 km à peu près. Je me sens aussi emprisonnée que quand j'étais mineure, quoi.
Quand t'es jeune, t'as besoin de sortir, t'as besoin de voir du monde. Là, on est obligé d'être dans une voiture. On se cache. Et c'est terrible hein, de ne pas avoir le droit de sortir, de voir ses amis. C'est compliqué. C'est difficile. Hein.
On est toujours en train de se dire, j'espère que je pourrai en fait.
Mais nous, on est pareil.
Bah, vous avez vécu votre jeunesse comme il le fallait. Ouais. En plus, vous n'aviez pas tout ce qui se passe en ce moment, en plus du Covid, qui fait peur, etc. Enfin, il y a plein de choses qui fait que bah, on ne vit pas du tout la même jeunesse que vous aujourd'hui.
Au final, si je vous dis virus, un mot.
Connard.
Bonne nuit. Et vous?
Gâchis. Tout est gâché. Enfin, ça gâche une jeunesse qui est déjà trop courte. J'ai pas le Covid, mais j'ai du mal à respirer, quoi. Bah oui, un vrai gâchis.
Martin, Dounia et Charlotte, ce soir dans C'est mon actu, avec Sandrine Houdin. Le temps pour demain.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire, belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
D'une manière générale, le bleu va s'imposer ce lundi dans la moitié sud et la grisaille dans la partie nord, plus particulièrement au nord d'un axe Val-de-Loire-Alsace, où malgré des trouées éphémères possibles, la majeure partie de la journée sera occultée par un ciel chargé et ponctuellement pluvieux, mais sous ces nuages, les températures nocturnes vont rester positives. Dans la moitié sud, en revanche, les gelées matinales seront fréquentes, entre 0 et moins 3 degrés en général, jusqu'à moins 5 prévues dans le sud-ouest, et les brouillards assez répandus au lever du jour vont persister une partie de la matinée près des cours d'eau, avant que toute la moitié sud ne retrouve un soleil vaillant. Les températures de l'après-midi, proches des valeurs enregistrées aujourd'hui, vont varier entre 6 et 9 degrés de la Bourgogne en allant vers Rhône-Alpes et la frontière allemande. Il est prévu 10 à 13 au nord de la Loire et généralement 13 à 17 plus au sud.
Jean-Michel Golinski de Météo France.